Alors, bon matin à vous tous. Merci aussi au groupe musical pour ces beaux chants. Surtout à la grâce de Dieu. Quel sujet merveilleux. Alors, je vous invite à prendre vos Bibles et trouver l'épître de Paul aux Romains. Selon Martin Luther, ce grand réformateur, la plus importante lettre qui n'a jamais été écrite. Et nous continuons notre étude systématique de cette épître. Et encore pour citer Luther, qui contient l'évangile le plus pur. Nous avons commencé en 2009 et nous sommes arrivés maintenant au chapitre 11. Ça fait déjà 2 ans. Peut-être quelques-uns parmi vous, vous êtes en train de penser pourquoi passer autant de temps dans ce livre et surtout dans les chapitres qui traitent de la doctrine, de la théologie. Pourquoi pas aller plus vite, sauter des textes même s'il le faut, arriver dans le pratico-pratique, par exemple les chapitres 12 à 15, ça ferait bien mon affaire. Deux réponses à ce genre de raisonnement. Si Paul va prendre 11 chapitres pour la doctrine et seulement 4 chapitres, chapitre 16 c'est une liste de salutations, 4 chapitres pour l'application, je vous laisse alors décider laquelle est la plus importante. Deuxièmement, il n'y a pas d'application sans doctrine. Prenez par exemple l'application de Romains 12:1. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, qui sera de votre part un culte raisonnable. Pourquoi le donc? Parce que l'application de Romains 12:1, offrir vos corps est basée sur Romains chapitre 1 à 11. Et vous n'offrirez jamais votre corps à Dieu si vous ne comprenez pas ce qui est dans Romains 1 à 11. Et troisièmement, dans l'épreuve, les temps difficiles, qu'est-ce qui nous soutient? Notre petite liste, je dois faire ci, je dois faire cela, je ne dois pas faire ceci, ou bien je ne dois pas faire cela, ou bien notre théologie, notre connaissance de notre Dieu. Et vous savez tous que dans ces moments difficiles, c'est notre connaissance, notre Dieu qui nous soutient, qui nous permet de braver la tempête et d'en sortir victorieux. Et l'épître aux Romains, surtout chapitre 1 à 11, nous fournit cette connaissance de notre Dieu. Et encore, pour citer Martin Luther qui a dit ceci, cette épître est la partie centrale du Nouveau Testament. Non seulement chaque croyant devrait la connaître mot pour mot, par cœur, mais il devrait la méditer jour après jour pour y trouver le pain quotidien de son âme. Tout un défi, n'est-ce pas? Alors, puisque ça fait depuis le mois de juillet que nous n'avons pas vu cette épître, j'ai cru bon de faire un petit résumé de ce que nous avons vu, et surtout pour les nouveaux, si vous êtes ici parmi nous pour la première fois. Alors, le thème de l'épître aux Romains, c'est l'Évangile. Romains 1, 16, Paul va dire ceci, « Je n'ai point honte de l'Évangile, c'est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit, du juif premièrement, puis le grec. » Et l'Évangile commence toujours avec une mauvaise nouvelle. Culpabilité, condamnation pour tous. Et un après un, Paul y va passer au cash, comme on dit en bon québécois, de différents groupes de personnes. Il commence avec le païen, le sans-Dieu. Romains 1, 18 nous dit que la colère de Dieu se révèle du ciel contre toute impiété et toute injustice des hommes qui retiennent injustement la vérité captive. On commence l'évangile avec la colère de Dieu. Et en parlant maintenant du païen, il dit Romains 1, 20, ils sont inexcusables. 1, 24, sont livrés à l'impureté. 1, 26, livrés à les passions infâmes. Un 28 livré à leur sens réprouvé. Un 32, ils sont dignes de mort. Après ça, il le moralise. Celui qui juge les autres. Et Paul va dire aussi la même chose dans Romains 2, 1. Toi qui juges les autres, tu te condamnes toi-même, puisque toi qui juges les autres, tu fais la même chose. Alors tu es donc inexcusable. Et dans 2, 5, il va dire ceci. Tu t'amasses un trésor de colère pour le jour de la colère et de la manifestation du juste jugement de Dieu. Ensuite, il va tourner vers les Juifs, celui qui avait la loi et qui faisait une gloire de la loi. Et Paul va dire ceci, tu déshonores Dieu par la transgression de la loi. Alors, le verdict, Romains 3, 19, tout le monde, païen, moraliste, juif, coupable devant Dieu, Romains 3, 19, et ce verset que nous connaissons tous par cœur, Romains 3, 23, car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Ça, c'est l'évangile, comment l'évangile commence. Mais il y a aussi une solution. Et ça, c'est la justification. Déclaré juste par Dieu, par la foi seule en Jésus-Christ. Quelle bonne nouvelle! Romains 3, 22, on parle de la justification. C'est la justice de Dieu par la foi en Jésus-Christ pour tous ceux qui croient. Et Romains 3, 24 nous dit qu'ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la foi qui est en Jésus-Christ. Et là, pour avoir donné des exemples, Romains 4, 3, il parle d'Abraham, cet homme qui crut à Dieu. Et cela lui fut imputé à justice. Et là, après ça, nous arrivons dans le chapitre 5. Et quel délice! Un plat de bénédiction. Étant donc justifié par la foi, la première chose, la paix avec Dieu. Pourquoi? Parce qu'il y avait la colère. Et maintenant, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ. Après ça, il y a la grâce de Dieu. Nous avons accès à cette grâce dans lequel nous demeurons fermes et nous glorifions dans l'espérance de la gloire de Dieu. Nous avons aussi, oui, l'espérance et bien sûr, nous avons l'amour. L'espérance ne trompe pas, car l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Chapitre 6 à 8, il va maintenant démontrer que la justification a des ramifications pratiques. Dieu ne nous a pas sauvés pour vivre comme bon il nous semble, comme on dit en bon québécois, comme yable. Mais il nous a sauvés pour une vie de sanctification. Et dans Romains 6, 8, va dire ceci, mort avec Christ pour vivre avec lui. Romains 7, nous avons été mis à mort en ce qui concerne la loi, afin que maintenant nous portions des fruits pour Dieu. Romains 8, 4 nous dit que la justice de Dieu, que Dieu réclamait, est maintenant possible, accomplir en nous qui marchons non selon la chair, mais selon l'esprit. Et quel beau texte, Romains 8, 15, nous avons reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions « Abba, Père ». Et la sécurité, Romains 8, 38, 39, j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ, notre Seigneur. Ça nous amène à Romains 9, 10, 11. Et ça maintenant, nous avons vu les Juifs, la nation d'Israël. Et la question que Paul, pourquoi est-ce que Paul a mis cette section? Ce n'est pas une parenthèse. Parce que la justification par la foi, c'est cette doctrine nouvelle. La question qui se pose automatiquement, mais Israël là-dedans? Comment se fait-il que les Juifs rejettent justement la doctrine de la justification par la foi? Peut-être elle n'est pas vraie. Ou bien si elle est vraie, c'est pourquoi les Juifs ont été rejetés, c'est ce que nous allons voir ce matin. Et qu'est-ce que nous avons vu dans les chapitres 9 et 10? Que Israël avait carrément rejeté la justification par la foi. Et ça nous amène maintenant au chapitre 11, que nous allons lire nos textes, versets 1 à 6. Je vous invite alors à suivre avec moi. Romains 11, 1 à 6. Je dis donc, Dieu a-t-il rejeté son peuple loin de là? Car moi aussi, je suis Israélite de la postérité d'Abraham, de la tribu de Benjamin. Dieu n'a point rejeté son peuple qu'il a connu d'avance. Ne savez-vous pas ce que l'Écriture rapporte d'Élie? Comment il adresse à Dieu cette plainte contre Israël? Seigneur, ils ont tué tes prophètes. Ils ont renversé tes autels et moi seul, je suis resté. Ils me cherchent à m'ôter la vie. Mais quelle réponse Dieu lui donne-t-il? Je me suis réservé 7000 hommes qui n'ont point fléchi les genoux devant Baal. De même aussi, dans le temps présent, il y a un reste selon l'élection de la grâce. Or, si ce n'est pas grâce, ce n'est plus par les œuvres. Autrement, la grâce n'est plus une grâce. Et le reste du texte, les érudits nous disent qu'il ne figure pas dans les meilleurs manuscrits. Alors, avant de considérer ce texte, laissez-moi vous dire que ce chapitre 11 est très, très important. Probablement le chapitre le plus important du livre de Romains. Premièrement, parce que la gloire de Dieu est en jeu dans ce chapitre que nous allons voir tantôt. La gloire de Dieu est en jeu. Deuxièmement, l'assurance de notre salut est aussi en jeu dans ces textes. Et troisièmement, si vous ne comprenez pas Romains chapitre 11, vous ne comprendrez jamais l'histoire de notre monde. Où est-ce qu'on s'en va? Qu'est-ce que Dieu est en train de faire avec le cours de l'histoire? Et non seulement le chapitre est très important, mais la question qui est posée au début de ce chapitre est d'une importance capitale, tellement importante que Paul va prendre le reste du chapitre pour expliquer la question. Dieu a-t-il rejeté son peuple? Alors, c'est la question à laquelle il faut répondre. Et dans l'original, le mot veut dire, est-ce que Dieu a repoussé au loin? Est-ce qu'il a rejeté totalement les Juifs, son peuple, la nation d'Israël? Et il y en a ceux qui n'hésiteront pas à nous dire oui, oh que oui. Et c'est ce qu'on appelle la théologie du remplacement, replacement theology en anglais. Simplement dit, Israël a rejeté Dieu. Puis Dieu, qu'est-ce qu'il a fait? La même chose. Vous m'avez rejeté? Je vous rejette. Un bon chat? Un bon rat. Il a rejeté Israël, annulé toutes les promesses qu'il avait faites à cette nation, et maintenant il les a transférées à l'Église. Et l'Église maintenant devient l'Israël spirituel. Les bénédictions matérielles promises à Israël deviennent pour l'Église des bénédictions spirituelles. Et le royaume terrestre promis à Israël devient un royaume céleste pour l'Église. Théologie du remplacement. Bref, il n'y a pas d'avenir pour Israël. C'est fini. Game over. That's it. That's all. Il y a quatre problématiques avec ce type de raisonnement. Premièrement, Israël est appelé l'élu de Dieu. Ça, c'est Isaïe 45, 4. Israël, mon élu, l'élu de Dieu. Mais, attention, parce que Christ est aussi appelé l'élu de Dieu. Isaïe 42, 1. Les anges sont appelés les élus de Dieu. Et l'Église aussi est appelée l'élu de Dieu. Alors, si on rejette Israël, il y a une contradiction. Soit l'élection n'est pas permanente, c'est juste temporaire. Alors, il faut dire aussi que l'élection soit temporaire pour Christ, soit temporaire pour les anges et soit temporaire pour l'Église, si on tient ce type d'argument. Ou bien, l'élection est permanente pour les autres, mais pas pour Israël. Pour moi, ça n'a pas de bon sens. Deuxièmement, l'élection ne pourrait plus être par grâce, mais par les œuvres. Israël n'a pas fait ce qu'elle est supposée de faire. Alors, Dieu l'a rejeté. Il y a une implication Attention, faites votre devoir si vous voulez rester dans les bonnes grâces de Dieu. Sinon, rejetez. Faites le transfert à l'Église. Vous savez qu'est-ce que cela implique? Faites votre devoir. Sinon, comme Israël, vous pouvez aussi être rejeté. Je vous laisse décider si ça a du bon sens. Troisièmement, pire de toutes, Dieu n'a pas tenu ses promesses à Israël. Sa réputation est atteinte, sa gloire est ternie, et si ça arrive, Dieu cesse d'être Dieu. Et l'implication pour nous, pouvons-nous faire confiance dans un tel Dieu qui n'a pas pu tenir ses promesses envers la nation d'Israël? Et quatrièmement, ça peut engendrer une mauvaise attitude face au peuple de Dieu, Israël, que Dieu dise, vous êtes la prunelle de mes yeux. Si on accepte la théologie de remplacement, c'est ce qui est arrivé, on va commencer à haïr Israël. Christ killers, ceux qui ont tué le Christ, comme disaient les nazis. Ceux qui ont volé le pays des Palestiniens. Et même le slogan, push them right into the sea, les repousser jusqu'à dans la mer. On pourrait avoir une telle attitude face au peuple élu, choisi de Dieu. Alors revenons à notre question, Dieu a-t-il rejeté son peuple? Et ce texte tellement important, je vais vous poser trois éléments de réponse. Trois éléments de réponse qui nous démontrent que Dieu n'a pas rejeté Israël, son peuple. Et tout d'abord, pourquoi Dieu n'a pas rejeté son peuple? C'est à cause de sa personne, ce qu'il est. Vous savez ce qu'il est? Il est le Dieu d'Israël. Le verset 1 nous dit, « Je dis donc, Dieu a-t-il rejeté son peuple ?» Alors les deux vont ensemble. Dieu, Israël, c'est son peuple. Il est le Dieu d'Israël. Et on pourrait se poser la question, mais comment est le Dieu d'Israël? Comment a été cette relation et comment est encore cette relation avec son peuple israélite? Alors, nous allons voir cette relation à travers ce qu'on appelle les alliances que Dieu a contractées avec Israël. Et vous savez, une alliance, c'est un contrat. On peut juste penser au mariage. C'est un contrat où est-ce que les époux s'engagent d'aimer, de chérir dans la maladie, dans la prospérité, et ainsi de suite, jusqu'à ce que la mort nous sépare. C'est un engagement. Et on s'engage à respecter notre engagement. Ce qui est remarquable dans les alliances, les contrats que Dieu a avec Israël, c'est que la plupart sont unilatérales. Ça va dans un seul sens. C'est Dieu qui s'engage. Ils sont aussi inconditionnels. Ce n'est pas si Israël, si. Non, non, non. C'est Dieu qui dit, moi je fais une telle chose, inconditionnel. Et aussi sont irrévocables. Rien ne pourrait les changer. Et on va rapidement voir trois de ces alliances. L'alliance avec Abraham. Avant qu'il devienne Abraham, Dieu va promettre à Abraham une nation d'Israël. Et aussi, il va lui promettre un pays. Et je vous lis rapidement juste quelques textes. Genèse 12, 2. Dieu va dire à Abraham, « Je ferai de toi une grande nation. » Genèse 13, 14 à 16. « Lève tes yeux. » Tout le pays que tu vois, je te donnerai à toi et à ta postérité pour 5 ans, 10 ans, pour toujours. Genèse 17, 2 dit ceci, j'établirai mon alliance entre moi et toi et je te multiplierai à l'extrême. J'aime beaucoup le verset 7 et 8, j'établirai mon alliance entre moi et toi et tes descendants après toi selon leur génération. Ce sera, quoi, une alliance perpétuelle qui dit ça finit pas. C'est une alliance perpétuelle en vertu de laquelle je serai ton Dieu et celui de ta postérité après toi. Je te donnerai et à tes descendants après toi le pays où tu habites comme étranger tout le pays de Canaan en quoi? Possession perpétuelle. Et ce n'est pas tout. Dieu a ajouté, je serai leur Dieu. De l'alliance. Mais aussi, il a fait une alliance avec David. Et Dieu établit la pérennité. Ça veut dire que la postérité de David, de sa famille de David, allait continuer pour toujours par Jésus-Christ et la souveraineté de son royaume sur Israël et sur toute la terre. Écoute ce qu'il va dire à David dans 2 Samuel 7:12. Quand tes jours seront accomplis et que tu seras couché avec tes pères, ça c'est un euphémisme pour dire que tu vas crever, comme on dit en bon québécois, là. J'élèverai ta postérité après toi, celui qui sera sorti de tes entrailles, et j'affermirai son règne. On sait que le texte dans le proche veut dire à Salomon qu'il allait succéder son père, mais il est porté plus loin. Verset 16, 12, il va dire ceci, « J'affermirai pour toujours le trône de son royaume. » Et verset 16 va dire ceci, « Ta maison et ton règne seront pour toujours assurés, ton trône sera pour toujours affermi. » De qui est-ce qu'on parle ici? C'est qui celui qui devrait régner pour toujours sur le trône de David? Et vous connaissez tous l'histoire. L'annonciation de l'ange Gabriel à Marie en ce qui concerne la naissance de Christ. Et voici, tu deviendras enceinte. Tu enfanteras un fils et tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera grand et sera appelé fils du Très-Haut. Écoutez bien. Et le Seigneur, Dieu, lui donnera le trône de David, son père. Il règnera sur la maison de Jacob, ça c'est Israël, éternellement. Et son règne n'aura point de fin. Et finalement, il y a la troisième alliance, c'est ce qu'on appelle la nouvelle alliance avec Israël. Dieu annonce la restauration de la nation d'Israël. Jérémie 31, il va dire ceci, « Voici les jours viennent, dit l'Éternel, où je ferai avec la maison d'Israël et la maison de Juda une nouvelle alliance. Voici l'alliance que je ferai avec la nation d'Israël après ce jour-là, dit l'Éternel. Je mettrai ma loi au-dedans d'eux, je l'écrirai dans le cœur et je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. » Et juste pour être certain, là, certain, sûr, là, qu'on a bien compris ce que Dieu voulait dire ici, écoutez bien ce qu'il va dire. Ainsi parle l'Éternel, qui a fait le soleil pour éclairer le jour, qui a destiné la lune et les étoiles à éclairer la nuit, qui soulève la mer et qui fait mugir les flots, dont le nom est l'Éternel des armées, si ces lois viennent à cesser devant moi, dit l'Éternel, la race d'Israël aussi cessera pour toujours d'être une nation devant moi. C'est pas tout. Au verset 37, Dieu va ajouter ceci. Si les cieux en haut peuvent être mesurés, et si les fondements de la terre en bas peuvent être sondés, alors je rejetterai toute la race d'Israël à cause de tout ce qu'ils ont fait, dit l'Éternel. Wow! Vous voulez qu'Israël cesse d'exister? Mais Dieu a dit, écoute, commence par arrêter le soleil de briller, la lune et les étoiles. Commence en retenant justement la mer. Vous voulez que Dieu n'ait plus rien à faire avec ce peuple-là, mais commence par mesurer les cieux et sonder les profondeurs de la terre. Et ça, c'est une parole puissante de la part de Dieu dans ses alliances. Quelle certitude de leur accomplissement, parce que c'est Dieu qui s'engage à respecter justement ses promesses. Avez-vous remarqué dans ces alliances, maintes et maintes fois, nous avons lu « Je ferai ceci. Je. » Et ça, c'est la parole de Dieu des alliances, de Dieu qui ne ment point, comme Tite 1 nous dit. Et ça, c'est la parole d'un Dieu qu'on dit dans Nombre 23, « Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni le fils de l'homme pour se repentir. Ce qu'il a déclaré, ne le fera-t-il pas? Ce qu'il a dit, ne le fera-t-il pas? Ce qu'il a déclaré, ne l'exécutera-t-il pas? » Et ça, c'est le Dieu d'Israël. Immuable, constant, digne de confiance à propos de ce qu'il avait dit à Israël. Mais aussi, c'est le Dieu de l'Église. Et quel encouragement pour nous. Et quand il dit dans Hébreux 13, 5, « Je ne te délaisserai point. Je ne t'abandonnerai point. » C'est exactement ce que Dieu veut dire. On peut justement être encouragé. Quelle parole puissante. Qu'importe ce que tu passes, où tu passes, qu'est-ce que tu fais, qu'est-ce qui t'arrive, je ne t'abandonnerai pas, je ne te délaisserai pas. Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Parole de l'Éternel, Dieu qui garde ses promesses, ses alliances. Et ça, c'est une des raisons pour laquelle il n'a pas rejeté Israël, parce qu'il a fait des belles promesses. Et c'est un Dieu qui est fidèle à ses promesses. Mais deuxièmement, Dieu n'a pas rejeté Israël à cause de sa personne, mais aussi à cause de son peuple. Israël et son peuple. Et le texte nous dit, comment est-ce qu'on appelle Israël? L'Israël de Dieu. Et comment Israël est devenu justement le peuple de Dieu? C'était par grâce. Ce n'est pas rien qu'Israël avait fait. Je voulais un texte en Deutéronome 7, 6. Dieu a dit ceci, tu es un peuple saint pour l'Éternel ton Dieu. L'Éternel ton Dieu t'a choisi pour que tu sois un peuple qui lui appartienne entre tous les peuples. Et ce n'est pas parce que vous surpassez en nombre tous les peuples que l'Éternel s'est attaché à vous, qui vous a choisi, mais, et quel mais, c'est parce que l'Éternel vous aime et qui a voulu tenir le serment qu'il a fait à vos pères. Ça, c'est la grâce souveraine de Dieu. Qui a regardé toutes les nations de la terre, des Québécois, je ne sais pas si les Québécois n'existaient pas à l'époque, mais en tout cas, de toutes les nations, ayant dit, celle-là, je veux la choisir, souverainement, par grâce, pour que cette nation lui appartienne. Mais il y a une problématique ici. Comment est-ce qu'Israël a répondu à cette grâce? Et c'est ce que nous avons dans Romains 11. L'incrédulité et l'endurcissement de son cœur. Et je vois que le temps file. Mais si vous prenez l'histoire d'Israël à propos d'Exode jusqu'à Malachie, vous allez voir qu'il y a murmure, incrédulité, over and over, maintes et maintes fois, même quand ils voulaient aller dans la terre promise, il y a encore décrit le pays. Quelqu'un a dit que cela a pris Dieu une nuit pour sortir Israël d'Égypte. Ça lui a pris 40 ans pour sortir d'Égypte d'Israël. Et quelle triste vérité. Deutéronome 31, 27 dit ceci, « Je connais ton esprit, Moïse, du parle au peuple avant de mourir, de rébellion et de raideur de ton cou. Si vous êtes rebelle pendant que je suis encore vivant, combien plus vous le serez après ma mort? » Et ça, c'était ce qui a marqué l'histoire d'Israël face à cette grâce de Dieu, rébellion, incrédulité. Et on voit cela dans le livre des... Même quand ils rentrent dans le pays, il y a un petit réveil sous Josué. Mais là, le livre des juges, c'est Dancy. Le juge est vivant, peuple correct. Il meurt, apostasie. Tout le temps. Et à la fin du livre des juges, on dit ceci. Il n'y avait pas de roi en Israël et chacun faisait ce qui lui semblait. Bon, un petit peu de réveil sous David, Salomon, il commence bien, il finit mal. Il y a toutes ses femmes, concubines, il détourne son cœur, il va auprès des idoles. Le royaume est divisé. Au nord, c'est dégueulasse, comme on dit en bon québécois. Pas un seul bon roi, ils sont tous décadents, des idolâtres. Le royaume du sud, Juda, un peu, mais pas si pire. Il y a quelques bons rois, Josaphat, il y a Joas, Josias, Ézéchias, mais finalement, c'est le déclin. Ils s'en vont en captivité, ils reviennent, 400 ans de silence, arrive au temps de Jésus-Christ, qu'est-ce qu'il y a? Le Messie vient, il se présente à Israël, et qu'est-ce qu'ils ont fait? Nous ne voulons pas que cet homme règne sur nous. Et pour mettre en exécution ce qu'ils ont dit, ils l'ont crucifié sur une croix entre deux brigands. Après sa résurrection, l'évangile est prêché. Il y a, oui, des Juifs à Jérusalem qui croient, mais partout où est-ce que Paul et Barnabas et Silas y étaient lapidés, la persécution, tu peux avancer, Bob, il y a une persécution, tout cela, ça, il rencontre justement la résistance à l'évangile. Et on voit le Messie est rejeté, et Israël maintenant est dans le temps de Paul, rejette l'évangile. Quelques textes en Romains qui nous disent ceci. En parlant d'Israël, Paul va dire ceci. Ils se sont heurtés contre la pierre d'achoppement. 1 Corinthiens 23, Christ crucifié, scandale pour les Juifs. Romains 10, 3, ils ne sont pas soumis à la justice de Dieu. Romains 10, 21, Dieu a dit, j'ai tendu mes mains tout le jour vers un peuple rebelle et contredisant. Ça, c'est la grâce de Dieu. Israël de Dieu, face à la grâce de Dieu, voici comment ils ont réagi. Est-ce que Dieu les a rejetés? Incrédules et endurcis, mais pas rejetés parce que le texte nous dit ceci. Regardez bien en verset 2. Dieu n'a point rejeté son peuple qu'il a connu d'avance. Par grâce, Dieu avait choisi de connaître ce peuple, d'avoir une relation d'intimité avec Dieu. Et il n'y a rien qui pourrait changer cela. Et troisièmement, Dieu n'a pas rejeté son peuple à cause de sa personne, à cause de ce que ce peuple est, son peuple Israël, Israël de Dieu. Mais Paul, maintenant dans le texte que nous allons voir brièvement, il va nous donner trois preuves aussi que Israël était toujours le peuple de Dieu. Et dans un premier temps, il y a l'évidence du rédacteur. Paul dit ceci dans le verset 1. Je suis israélite. Si Dieu avait rejeté son peuple, je ne serais même pas en train de vous écrire. Je ne serais même pas là. Alors l'évidence est là. Je ne suis pas un prosélyte. J'ai un pedigree. Je suis un israélite, né de la postérité d'Abraham, de la tribu de Benjamin. J'ai justement un pedigree. Et en passant, quel témoignage face à la grâce de Dieu. Hein? Paul va dire dans 1 Timothée 1,14, la grâce... Notre Seigneur Jésus a surabondé avec la foi et l'amour qui est en Jésus-Christ. Pourquoi? Parce que c'est un homme qui décrit lui-même. J'étais un blasphémateur, un homme violent. J'ai persécuté l'Église. Et voilà, trophée de la grâce. Un homme qui nous démontre que Dieu n'avait pas rejeté son peuple parce qu'il n'y aurait aucun Israélite qui serait vivant sur la face de la terre. Preuve numéro 2. Nous avons le rédacteur, mais il y a aussi le reste. Verset 5. De même aussi, dans le temps présent, il y a une reste selon l'élection de la grâce. Et un reste veut dire simplement un groupe d'individus, qu'importe le nom, que Dieu choisit et que Dieu garde fidèle à lui, même si toute la nation est dans la pire apostasie. Il y a une poignée de personnes fidèles, choisies par Dieu, gardées pour lui. Il dit, je me suis réservé. 7000 hommes. Et c'est ce que Dieu va dire à Élie, pauvre Élie. Vous vous rappelez l'histoire d'Élie quand il a confronté les prophètes de Baal. Et là, il y a eu une victoire éclatante sur la montagne. Et là, une femme qui rentre dans le décor, Jézabel. Demain, là, on va te zigouiller. Puis là, Élie a eu peur. Il s'en va dans le désert. Puis pauvre de moi, je ne suis pas meilleur que mes pères. Je veux mourir. Là, il s'en va dans la caverne, puis Dieu lui parle. Élie, qu'est-ce que tu fais ici? Oh Dieu, j'ai été déployé mon zèle pour l'Éternel. Ils ont renversé tes austères. Ils ont tué tes prophètes. Je reste seul. Dieu dit, non, j'ai 7000. 7000 que je me suis réservés qui ne sont pas fléchis de genoux devant Baal. Et Dieu a dit, je me suis réservé pour moi-même. Comment est-ce qu'il fait cela? Par l'élection de la grâce. Et ça, c'est la souveraineté de Dieu. L'élection de la grâce, Dieu avait souverainement choisi certains individus et qui a fait en sorte qu'il y avait 7000 fidèles en Israël, même quand toute la nation vautrait dans l'apostasie. Et ça a été toujours comme cela. Dieu n'avait jamais dit que toute la nation le suivrait fidèlement, mais il a toujours veillé à ce qu'il y ait une reste pendant toutes les époques de la nation d'Israël. Que ce soit un Esther, un Mardoché, un Shadrach, Meshach, Abednego, Daniel, un Zorobabel, dans le Nouveau Testament, Jean-Baptiste, il y a Simeon, cet homme qui attendait, il y a Anne, la prophétesse, il y a ceux qui attendaient la délivrance d'Israël, les croyants juifs à l'époque de Paul dans le Nouveau Testament, les 144 000 qu'il y aura pendant la grande tribulation. Il y a toujours ce reste fidèle qui existe parmi la nation d'Israël. Des juifs qui croient. Et ça, c'est la réponse. Un reste a toujours existé et existera toujours parmi la nation d'Israël jusqu'à, comme nous avons vu, et que nous allons voir à la fin, un jour, tout Israël sera sauvé. Ça, c'est la réponse à la question « Dieu a-t-il rejeté son peuple à cause de sa personne? » À cause, c'est le Dieu des alliances, il garde justement ses promesses. À cause de son peuple qui a connu d'avance Israël de Dieu. Et Paul nous donne maintenant des preuves. Paul est un Israélite. Il y a 7000 de reste en Israël. Et il y a une troisième preuve, la révélation que nous allons voir la semaine prochaine. J'aimerais terminer simplement avec le verset 6 et faire une application. Paul va dire ceci au verset 6, si c'est par grâce, ce n'est plus par les œuvres, autrement la grâce n'est plus une grâce. Ici nous avons un contraste, parce que ça c'est la conclusion que Paul amène à ce qu'il vient de dire. C'est un contraste entre l'activité divine, la grâce, et l'activité humaine, les œuvres. Il fait un contraste entre la grâce et les œuvres. Et l'argument de Paul, c'est l'élection de la grâce n'est pas basée sur ce que nous faisons. Sinon, cela ne sera plus la grâce. Si nous fournissons l'acte décisif qui mène à notre élection. Si on fait quelque chose qui fait en sorte que Dieu va nous choisir, mais Paul, son argument, c'est plus par la grâce. Parce que la grâce est gratuit, la grâce est libre. Ce n'est pas quelque chose que nous faisons, qui méritons que Dieu nous choisisse. C'est l'élection de la grâce. Et c'est Dieu qui est souverain, qui décide, qui va choisir. Juste vous donner une illustration rapide de cela. Dans le cas d'Ésaü et Jacob, c'est ça un exemple. Les enfants n'étaient pas encore nés. Ils n'avaient fait les œuvres ni bien, ni mal, mais afin que le dessein de l'élection subsiste sans dépendre des œuvres et par la seule volonté de celui qui appelle. Qu'est-ce que Dieu a dit? L'aîné sera assujetti au plus jeune, et j'ai aimé Jacob et j'ai Ésaü. Juste une conclusion. L'élection ne serait pas gratuite si elle est basée sur ce que Jacob avait fait en ce moment. La grâce ne sera plus une grâce, mais quelque chose qu'on aurait mérité à cause de ce qu'on aurait fait. Et ça détruit complètement la notion de la grâce et par ce fait même la notion de la grâce. Ligne de fond, Dieu agit toujours selon l'élection de la grâce. Par grâce, il peut choisir comme le temps d'Élie, 7000, pour créer un reste qui ne fléchira pas le genou devant Baal. Au temps de Paul, il y avait des milliers de Juifs qui avaient cru. Et même encore aujourd'hui, il y a un reste parmi les nations juives. Et si vous voulez avoir les textes, Romains 3, 23, 24, sauvé par grâce, justifié par grâce, où le péché a abondé, la grâce a surabondé. Dieu n'a pas rejeté son peuple. Et même le rejet de lui ne peut l'empêcher de sauver un reste et ultimement la nation tout entière quand lui va décider d'enlever leur endurcissement. Alors, qu'est-ce que ça change dans ma vie? L'élection de la grâce, mais je vous donne des applications. Il y a des applications dans la doctrine. Dans un premier temps, soyons humbles. Pourquoi? Parce que ce n'est pas parce que j'étais plus smart et plus fin que Dieu m'a choisi. C'était par pure grâce. Alors, j'ai rien à me glorifier. Nous étions morts dans nos péchés, aveugles. Et c'est la grâce de Dieu qui nous a réveillés de cette mort spirituelle. Et avec cette attitude, soyons aussi reconnaissants. On ne mérite rien. Alors, quand des choses difficiles arrivent, que Dieu permet dans notre vie, ne soyons pas comme Israël qui a chiolé, bonne expression québécoise, toute leur vie, parce qu'on ne mérite absolument rien. Soyons reconnaissants et sachons aussi que la grâce de Dieu est toute suffisante pour toutes circonstances. Deuxièmement, on peut prier avec confiance. Même pour les ceux qui nous sont chers, qui sont les plus endurcis. Pourquoi? Parce que si Dieu peut réserver pour lui n'importe quel individu que lui choisit, même si ceux que nous aimons sont endurcis, Dieu peut les sauver aussi. Parce que s'il faut que Dieu attende que les perdus prennent l'initiative, là, que les aveugles commencent à voir, que les sots commencent à entendre, il n'y a personne qui sera sauvé. Mais l'élection de la grâce est libre, c'est gratuit, et c'est Dieu qui souverainement choisit. Alors pourquoi pas? Il n'y a rien, des obstacles, on peut dire, Seigneur, c'est la grâce. Ce n'est pas ce que cet individu a fait. Alors on peut prier pour nos proches avec confiance en justement s'abasant sur la grâce de Dieu qui est source de salut pour tous les hommes. Partageant l'évangile avec tous. Avec tous. Il n'y a aucune personne qui est trop méchant pour être sauvé. Si Paul, l'apôtre, le pire des pécheurs, le premier, comme il dit, j'étais le premier des pécheurs à être sauvé, il y a l'espérance pour n'importe qui. Glorifions-nous dans le Dieu de toute grâce. Adorons le Dieu de grâce. Aimons le Dieu de grâce. Trouvons notre joie dans le Dieu de grâce. 1 Corinthiens 1:31 dit ceci, que celui qui se glorifie dans le Seigneur. Et finalement, si vous êtes ici ce matin et vous n'êtes pas sauvé, vous ne connaissez pas le Seigneur Jésus-Christ comme votre sauveur personnel, ne dites pas, peut-être, je n'ai pas été choisi. Dites plutôt, puisque Dieu est choisi par grâce, et non pas sur la base de ce que j'ai fait ou ce que je n'ai pas fait, il n'y a absolument aucune raison pour moi de penser que j'ai été exclu. Absolument aucune raison de penser que j'ai été exclu. Parce que l'élection, c'est par grâce. Il n'y a aucune raison de penser que j'ai été exclu. C'est par grâce. C'est pas basé sur ce que j'ai fait ou ce que je n'aurais pas fait. Alors, si vous ne connaissez pas Christ comme votre sauveur, il y a simplement de reconnaître que vous êtes état de pécheur. Vous savez, une prière tellement simple. Je pense à cet homme, le publicain, qui est allé dans le temple. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a frappé sur sa poitrine. Il a dit, « Oh Dieu, sois apaisé envers moi qui suis pécheur. » Simplement reconnu son état de pécheur. Et je vous dis que si quelqu'un prie sincèrement cette prière. Sois apaisé et miséricorde envers moi. Sois miséricordieux envers moi qui suis pécheur. Ça, c'est une prière qui ouvre les écluses des cieux et Dieu va déverser sa grâce salvatrice sur cette personne qui prie de telle prière. Et par sa grâce, vous pouvez quitter ce lieu ce matin, sachant que vous avez la vie éternelle. Et vous êtes maintenant une trophée de grâce. On va prier. Seigneur notre Dieu, nous te bénissons. Quel Dieu merveilleux que tu es. Tu as choisi Israël par grâce. Tu as réservé 7000 hommes par l'élection de la grâce. Et tu sauves encore par la grâce. Merci aussi pour la grâce qui est toute suffisante dans nos vies face à nos difficultés, afin que nous puissions rester fidèles, attachés à ta personne. Et merci aussi que tu es un Dieu qui est gracieux. Et dans nos faiblesses, notre Dieu, que tu ne traites pas selon nos péchés, tu ne punis pas selon nos iniquités. On veut prier aussi pour ceux parmi nous qui ne connaissent pas, Seigneur, que tu puisses aussi ouvrir leurs yeux, qu'ils puissent voir la beauté de Christ. Qu'ils puissent goûter que l'Éternel est bon et qu'ils puissent avoir l'assurance de leur salut. Bénis ton peuple. Merci d'être le Dieu d'Israël, mais aussi d'être le Dieu de l'Église. Sois béni. Au nom de Jésus. Amen.